particulier le gosier.
On entend finalement dans ce témoignage de Patricia que l'entreprise familiale qui dure aussi longtemps, je crois que Patricia, vous êtes la sixième génération, pardon, sixième génération, on est dans la saga familiale en même temps qu'on est dans la saga de l'entreprise qui au fond, pour perdurer, ça ne suffit pas qu'il y ait cet effet de dynastie dont on parlait tout à l'heure. Il faut également qu'on suive l'évolution de la société. Et pour cela, évidemment, il faut être créatif, il faut être innovant. Et quand on est une petite entreprise, ce qui est souvent le cas quand on est une entreprise familiale, ça ne l'est pas nécessairement, hein, mais c'est souvent le cas, on a d'autant plus la nécessité d'être créatif et innovant pour se distinguer d'un marché où parfois il y a des acteurs plus importants. Donc on constate que les entreprises familiales sont souvent plus innovantes que les autres. Elles ont parfois moins de moyens de communication, moins de moyens pour aller à l'international, parfois des difficultés aussi pour se développer, qui peuvent être essentiellement des difficultés financières. Pourquoi des difficultés financières ? Parce que les entreprises familiales ont un petit peu, évidemment, tendance à vouloir s'autofinancer. Pourquoi je dis évidemment ? Parce que quand on est une entreprise familiale, on gère en bon père de famille. Donc, on n'a pas tellement envie ni d'emprunter, souvent, ni même de faire appel à des capitaux extérieurs. Alors, préférentiellement, on se débrouille tout seul. Et puis, quand on ne peut plus se débrouiller tout seul, on fait appel à sa banque. Et puis, quand on ne peut plus faire appel à sa banque, bah, progressivement, on ouvre. Et c'est là qu'on est obligé d'évoluer. Et que la nécessité arrive de structurer de plus en plus l'entreprise. Le plus important pour que ça perdure en termes familial, c'est bien que ce soit l'actionnariat qui soit familial. Parce que c'est là que se situe le long terme et le là de l'entreprise.
La première chose, ce qui est vraiment frappant, au métier, on n'a pas que des entreprises de luxe, on a des entreprises qui sont familiales ou personnelles, parfois c'est des entreprises de première génération, mais on a des gens qui sont les leaders des cheminées industrielles. La coprésidente du métier, Tuan, c'est du textile médical, donc c'est des sujets moins sexy. mais ce qu'on retrouve, j'ai été aussi en Allemagne l'année dernière au congrès européen des entreprises familiales, et quand on entend des entrepreneurs familiaux, la première chose qui frappe, c'est la passion du produit. C'est-à-dire qu'on serait tous capables de parler pendant des heures de nos produits. Et je pense qu'on a vraiment un avantage dans ces structures-là sur le produit, peut-être parce que ça a été très bien décrit. Je vous recommande le livre par un des papes du management allemand qui s'appelle Hermann Simon, qui a écrit un livre qui s'appelle « La stratégie du propriétaire ». J'ai lu ce livre et les interviews des dirigeants familiaux et je retrouvais tout ce que mon père m'avait appris, en fait, tout ce qui était notre culture. En Allemagne, j'entendais exactement les mêmes choses de dirigeants dans des secteurs très divers, de gens qui pouvaient être allemands, anglais, grecs, et qui parlaient tous le même langage que celui que j'entends et qu'on parle aujourd'hui. Donc c'est vraiment, je pense, un véritable avantage, peut-être parce qu'on a une expérience. Moi, ma famille a travaillé 3 générations dans la cosmétique, c'est quand même un métier très spécifique, industriel. Peut-être aussi parce qu'il y a des circuits courts, des équipes de vente qui sont proches des équipes de marketing, qui sont proches de la direction. Moi, par exemple, on participe directement et toutes les semaines au travail de création avec nos équipes de recherche. C'est, je pense, un énorme avantage. Ma deuxième réaction, c'est par rapport au financement. Alors, les petites entreprises ont des problèmes de financement. C'est moins le cas des ETI familiales, qui en réalité ont déjà une certaine taille et plus vous grandissez, moins vous avez de problèmes de financement. Mais par contre, là où je réagissais, ce n'était pas sur le bon père de famille, c'était sur l'autofinancement. L'autofinancement, c'est la clé de l'indépendance. C'est la clé de votre modèle. C'est-à-dire que, bien évidemment, si il y a 60% des ETI sont en bourse, des entreprises en bourse sont des ETI. Mais c'est une chose, vous allez prendre, quand on prend un investisseur extérieur, il faut savoir qu'il y a un prix à payer. Quand on rentre en bourse, forcément, vous prenez des gens qui investissent dans votre entreprise, ça change la donne, ça change l'horizon de temps. Et pour nous, moi, ce qui a poussé mon père à toujours chercher à être indépendant, c'est qu'il souhaitait pouvoir construire son entreprise sur le long terme, sans avoir des investisseurs qui lui demandent éventuellement de sortir, donc de produire des résultats rapides, etc. Lui, ce qu'il voulait, c'est construire sa marque. Et on voit souvent cette volonté d'indépendance et d'autofinancement comme une sorte de... protection d'entreprises familiales un peu frileuses et qui ne voudraient pas trop prendre de risques. En réalité, moi, je pense que beaucoup d'entreprises, d'abord, ouvrent leur capital, hein, on le voit malgré tout, parce que ça peut être nécessaire pour un projet, mais qu'il faut le faire que si vraiment il y a un projet qui le nécessite. Moi, mon père, comme je pense, je l'ai entendu aussi, pendant 20 ans, les 20 premières années de Sisley, il n'a pas distribué de dividendes du tout. Pourquoi ? Parce qu'il voulait rester indépendant, parce que pour financer le développement de Sisley, l'ouverture des filiales à l'étranger, etc., il fallait avoir de l'argent. Alors il a pris un emprunt au tout début, et il a mis son capital. S'il avait raté, il aurait tout perdu. Hein. Et ensuite, au bout de 20 ans, quand on a eu la taille, on a commencé un petit peu à distribuer. Mais c'est cette volonté d'autofinancement, elle est très importante. Et le troisième point de Mme Cadol, je pense qu'il est important, on a parlé de l'environnement. Alors, on a parlé de l'environnement pour les entreprises familiales. C'est vrai que l'environnement français est aussi un sujet. On a fait une étude au métier, on a placé une entreprise ETI en France et en Allemagne. On a pris sa même structure et on a fait l'exercice avec un think tank, on l'a placé en Allemagne. L'entreprise allemande fait 70% de plus de profit. Ça veut dire qu'ils achètent des machines, ils sont 6 fois plus robotisés que les Français. Hein. Donc, on a à la fois, on a deux contraintes, hein, de problèmes quand on est en France. On a l'environnement économique et général dans lequel on place depuis 15 ans. Hein, ce n'est pas un sujet politique spécifique, mais les entreprises françaises. Et puis après, on a un deuxième problème qui est notre problème de transmission et de taxation sur le capital, qui là est un problème qui est spécifiquement familial. Il faut bien avoir conscience que pour construire des entreprises mondiales, il faut du temps, il faut des gens qui soient dédiés à ça, qui ne veulent pas vendre l'entreprise au bout de 10 ans à un grand groupe. Et pour ça, il faut effectivement qu'il y ait une prise de conscience de notre environnement, de ce qu'on peut, nous, entreprises, apporter en termes de produits, de beaux produits, de création d'emplois et aussi de création de richesses.